à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du 17e épisode du Cartan. Je suis toujours accompagné de mon acolyte sur cet épisode puisque c'est Benjamin qui est avec moi ce soir pour parler de la draft.
Salut, tu m'en topes un. Désolé.
Eh oui, tu étais obligé de la faire. Cette draft qui a eu lieu hier soir au moment où nous parlons. Et si vous ne l'avez toujours pas écouté, je vous invite à vous rendre sur la première partie de cet épisode pour écouter notre discussion sur les trois premiers choix de la draft, qui étaient dans l'ordre Edwards, Wiseman et Ball. On attaque désormais ce second quart-temps avec une discussion sur les picks qui nous ont surpris, tant positivement que négativement. On va voir également les bonnes pioches de cette draft, avec des joueurs qui sont sélectionnés peut-être un peu bas, mais qui ont un très fort potentiel. On va en parler tout de suite pour ce second quart-temps. Comme je le disais, la draft a eu son lot de surprises, tant positives que négatives, des joueurs qui sont montés très haut dans les pics, d'autres qui sont descendus assez bas, mais qui pourraient potentiellement avoir des très bons résultats, ou en tout cas un potentiel très intéressant à développer. On attaque avec la surprise, je pense, la plus importante de cette draft, avec le choix des Chicago Bulls au pic 4, puisqu'ils sélectionnent Patrick Williams. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Benjamin, de ce pic? Je sais que t'es pas aussi extrême, on va dire, que la twittosphère ce soir.
Non, clairement, moi, j'aime bien Patrick Williams. Voilà, c'est un mec qui a une vraie polyvalence, une vraie versatilité défensive, qui a un bon profil, en fait. Maintenant, en 4, c'était vraiment surprenant, parce que jusqu'ici, on avait parlé de Tyrese Haliburton, on avait parlé de Denis Avdija, on avait parlé de plein de gens, mais Patrick Williams n'avait pas été mentionné avant quelques heures avant la draft, justement, où on a appris que les Bulls étaient intéressés. Ce que je comprends pas trop avec ce pick, c'est pourquoi il n'y a pas eu éventuellement un trade down. Alors je sais pas si c'était vraiment une possibilité, puisque on sait que Détroit avait peut-être l'intention de le sélectionner, avait très probablement l'intention de le sélectionner en 7, mais le prendre en 4, c'est quand même vraiment osé. J'ai l'impression qu'il y a deux semaines, il était 15e de la draft, il est monté 7e, on a commencé à parler de court-circuiter les Pistons pour le récupérer, ça fait monter sa cote encore, il est passé 4e, il a vraiment explosé. Et dans le processus pré-draft, c'est vraiment le grand gagnant du processus pré-draft, selon moi.
Comme tu le disais, c'est le grand gagnant, puisque en plus d'avoir un choix, d'avoir une médiatisation qui va être encore plus importante, salarialement parlant, il va gagner plus d'argent que s'il avait été sélectionné autour du... entre le 10 et le 15e, on va dire, c'est là qu'on l'attendait. C'est vrai que des franchises, comme les Spurs étaient intéressées par ce profil. Mais il pose ses valises à Chicago. Je pense que c'est un bon développement, il va falloir lui laisser du temps. Après, à voir comment il arrive à fitter avec Markkanen, je pense que ça va être assez intéressant de voir les premiers matchs, voir l'utilisation des différents joueurs pour au sein de la franchise. Donc oui, première surprise qui a étonné tout le monde vraiment, il y avait peut-être des meilleurs choix à faire, on parlait aussi également d'un joueur comme Avdija potentiellement du côté des Bulls. Voir comment... Comment ça fait Avdija qui a été sélectionné un peu plus bas puisqu'il part du côté de Washington.
Ouais, effectivement, Avdija est tombé en 9 et c'est vrai que c'est quelque chose que j'attendais encore moins que le pick Patrick Williams en l'occurrence, parce que déjà Washington était surpris. Washington a vraiment une grande estime pour Avdija et quand il est vraiment tombé en 9, ils se sont dit de toute façon on n'a pas le choix à ce stade-là, on est un peu obligé de le prendre. Tous les top talents ils sont partis, ils ont bougé. Et là, il reste ce gars qui descend en 9e position, qui a une vraie expérience, une vraie versatilité positionnelle. J'en ai déjà parlé dans le précédent épisode. Mais c'est ce qui fait que je l'aime autant. Il est vraiment pratique, en fait. Il est vraiment polyvalent. Et ça, c'est vraiment top pour Washington.
On descend un tout petit peu plus bas pour l'autre surprise, puisqu'on part cette fois-ci du côté des Suns, qui nous ont drafté Jalen Smith. Alors, encore une fois, Jalen Smith, il était vu beaucoup plus bas. Mais c'est un profil très intéressant qui arrive du côté de Phoenix. En tout cas, moi, je pense... il était noté, en tout cas, dans toutes mes mock drafts, en pick, un peu style. Le pick qui peut faire du bien à une franchise qui cherche à se développer et qui a un rôle de 4 très, très défensif et en même temps très énergique. Il a 15 points, 10 rebonds et 2,5 comptes de moyenne à Maryland. Donc voilà, Maryland qui est une bonne université, mais pas non plus une énorme université, on va dire, mais très intéressante quand même. Donc c'est un pic qui est étonnant, on va dire, si haut, mais qui pourrait faire du bien à Phoenix.
Très clairement, c'est un peu le truc de Phoenix, en fait, de chaque année sélectionner un mec un peu trop haut, selon les estimations. Moi, je suis un grand fan de Jalen Smith, c'est un peu mon chouchou dans cette draft-là. Bonne taille, sa capacité à écarter le jeu à 2m8, c'est vraiment impressionnant. Bon, après, il n'a pas vraiment le physique pour jouer pivot, donc il devrait se contenter d'un rôle d'ailier fort, tant qu'il ne se renforce pas, notamment dans le bas du corps. Et pareil, il a un petit problème de rapidité latérale, c'est un truc qui revient souvent chez les bigs de cette draft. Je pense notamment à Obi Toppin. C'est que ça les limite pas mal en défense pour défendre le périmètre, pour switcher et compagnie. C'est aussi le problème de Jalen Smith. Donc je comprends qu'on puisse penser qu'il est un peu trop haut. D'ailleurs, je pense aussi qu'il est tombé trop haut. Mais c'est pas une mauvaise prise pour Phoenix.
Est-ce que toi, tu aurais une autre surprise, un joueur qui a été drafté peut-être un peu bas ou un peu haut?
Très clairement, la 12e place avec Tyrese Haliburton était vraiment inattendue pour le coup, parce qu'il était parfois annoncé dans le top 4, souvent dans le top 6. Il avait vraiment la côte ces derniers jours. Alors évidemment, quand il tombe en 12 à Sacramento, ils vont pas faire une erreur. Voilà, c'est vrai qu'ils ont raté Doncic une fois, mais quand Tyrese Haliburton arrive en 12, ils sont pas aussi débiles qu'à l'époque. C'est plus le même front office, donc ça aide aussi. C'est vraiment un joueur qui est impressionnant, qui a beaucoup de potentiel. C'est un bon tireur, c'est un bon organisateur, c'est quelqu'un qui peut jouer sur deux postes. C'est toujours un plus d'avoir un combo guard comme ça dans un projet en développement, parce qu'il pourrait jouer avec Fox ou avec Hild ou avec Bogdanovic, bien sûr.
Mais oui, ils sont pas aussi débiles qu'à l'époque. Hein.
Oui, bon, c'est vrai qu'ils sont aussi débiles qu'à l'époque, mais de manière différente.
Un peu différente, c'est vrai, pour la rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode, Bogdanovic a été proposé à Milwaukee dans un scénario trade, mais les Kings ont oublié, on va dire, de le prévenir. on peut pas dire autrement. Très étonnant, ce Bogdanovic, mais Tyrese Haliburton est très intéressant. En tout cas, c'est pour moi, vraiment, avec la Melo Ball, l'un des meilleurs meneurs de cette classe de draft. Il a une capacité, je trouve, à se fondre dans un collectif qui va être très intéressante. Après, voilà, il y a pas mal de questions qui se posent autour de son physique, donc à voir comment il évolue. Mais c'est une très bonne pioche pour moi du côté des Kings. Il y a un autre pic qui m'a un peu étonné, c'est Pokuševski, qui est très très tôt. On sait que OKC le voulait absolument. Ils avaient remué ciel et terre apparemment pour être sûr de pouvoir l'avoir. C'est un joueur qui a peu joué du côté de l'Olympiakos, la réserve même de l'Olympiakos ces dernières saisons. C'est un Serbe qui fait 2m13, si je dis pas de bêtises, pour 95 kilos. C'est un peu un rôle en tout cas un physique à la Porzingis, mais Porzingis, je trouvais, apportait beaucoup plus de prérequis dès le début dès sa draft. Donc je suis un peu étonné, mais on va voir comment ça se passe pour lui. En tout cas, je lui souhaite bonne chance et j'espère que vous me ressortirez ce passage où je dis que je n'ai pas du tout confiance dans son développement dans les futures années. On part maintenant du côté des bonnes pioches, et comment ne pas évoquer les bonnes pioches de cette draft sans parler de Killian Hayes, sélectionné par les Detroit Pistons à la 7e place, et il devient le meilleur français, en tout cas le français drafté le plus tôt dans toutes les classes de draft depuis la création de la ligue.
Après, pour moi, le fait que Hayes se retrouve aussi haut dans la draft, c'est pas vraiment un témoignage de sa force, c'est un petit peu un témoignage de la faiblesse de cette draft, parce qu'on sait que les prospects européens ont tendance à être dévalorisés, on sait qu'ils se méfient des ligues européennes et compagnie. Pour la plupart, c'est beaucoup moins le cas de Détroit, qui avait déjà sélectionné ses Kudumbuya l'année dernière. Après, je suis quand même vraiment très content, parce que Détroit, c'est une franchise que j'apprécie globalement, parce que Sekou est déjà là-bas, donc ça va faire une équipe un peu française. En tout cas, on va avoir une petite French connection entre Sekou et Killian. On sait que ça entend bien, peut-être que Killian peut essayer de tirer Sekou un petit peu vers le haut. Moi, je suis très content pour les Pistons aussi, parce que j'avais un peu peur depuis que Patrick Williams, il commence une reconstruction, et pour moi, Killian Hayes, c'est parfait pour ça. C'est-à-dire que ça va vraiment être le général sur le terrain, il va avoir le ballon, et avec son jeu de passe, il va pouvoir distribuer le jeu. Et ça, à mon avis, ils en ont besoin assez tôt dans la reconstruction pour s'approprier un style de jeu autour de ce meneur-là, en fait.
Il va y avoir un tandem Rose Hayes qui va être assez intéressant de voir justement D-Rose en train de peut-être avoir un rôle de mentor hein, pour Killian Hayes, de le former, d'avoir un, peut-être l'ouvrir un peu à des moves différents, à une vision de jeu un peu différente. On sait que c'est un de ses grands points forts, c'est sa vision de jeu. Donc je pense que D-Rose va lui faire du bien justement dans le jeu en pénétration et peut-être, voilà, c'est ça, changer, en tout cas modeler son jeu un peu pour l'adapter et qu'il soit peut-être un peu plus NBA ready. En tout cas, on sera, ce sera très intéressant de voir l'évolution de Killian Hayes. On est très, très impatient forcément de le voir évoluer sur le terrain. Et ça va faire du bien, je pense, de, ça va faire du bien, comme tu disais, hein, à la franchise de, des Pistons. On part maintenant du côté des bons choix, en tout cas des choix qui ont été assez intéressants, puisque moi, dans mes tops un peu, je trouve que Aaron Nesmith du côté de Boston, c'est un style pour moi de la part de Boston de sélectionner ce joueur, puisque c'est l'un des meilleurs attaquants, un des meilleurs attaquants de cette classe de draft. Il va faire énormément de bien à Boston sur, dans un rôle. Je trouve qu'il a un peu un physique à la Jason Tatum. Il a, Jason Tatum avait fait évoluer son jeu, mais je trouve dès, le, dès sa draft, c'est un peu ce profil de joueur-là. Après, ce qui m'étonne de la part de Boston, c'est cette sélection, parce que ça se bouscule un peu à ce poste-là. Donc on va voir comment, comment ils vont faire évoluer. Mais Aaron Nesmith, pour moi, c'est un très bon choix.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. 52,2% à 3 points pour 8,2 tirs par match en saison avec Vanderbilt. C'est impressionnant. Voilà, il a 21 ans, donc il arrive, il est mature. Moi, je trouve que c'est une très très bonne pioche pour Boston.
Est-ce que tu aurais une autre bonne pioche dans ta petite liste ?
Ah, moi, j'ai envie de parler d'un joueur qui est tombé très très bas dans cette draft, en 48 en l'occurrence. C'est les Warriors qui ont sélectionné Nico Mannion. Nico Mannion, c'est un joueur qui, dans la plupart des mock drafts en début de saison, tombait régulièrement entre le 20 et le 30. Parfois, il faisait irruption dans le top 20. C'est un joueur qui a toujours été intéressant, mais on se posait des questions par rapport à son physique, parce qu'il est petit, parce qu'il est frêle. Mais c'est un joueur qui a de vrais bons fondamentaux, qui a un vrai talent, qui a une très bonne vision de jeu. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Et surtout, le prendre 48e position, ça, c'est un style vraiment, c'est incroyable. Et je sais que tout autour de la ligue, pas mal d'exécutifs se posent aujourd'hui la question, comment ça se fait que Nico Mannion soit tombé en 48e position? Pourquoi on l'a pas pris? Pourquoi les autres ne l'ont pas pris? Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, j'avais du mal à, quand même, avec le jeu de Nico Mannion. Je croyais qu'il y avait des meilleurs point guard sur le papier.
Mais en 48, quand même.
Mais en 48, c'est vrai que c'est beaucoup. Et en parlant des point guards, j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour Théo Malédon, qui a été sélectionné en 34e choix du côté d'OKC. On l'attendait autour du pic 20-25, mais comme tu le disais, le choix des grands très très tôt dans cette draft a fait descendre les meneurs forcément. Et c'est très bien, je trouve, pour OKC d'avoir sélectionné Théo Malédon. Moi, je l'avais un peu prédit. Je pensais juste qu'ils allaient l'utiliser ils avaient à la base le pic 21, donc je pensais qu'il allait partir à ce moment-là. Mais c'est un bon choix pour Théo Malédon. Il a un boulevard devant lui qui est ouvert pour, en tout cas à son poste. Donc potentiellement, il va avoir des minutes, un usage rating assez important. C'est l'occasion pour lui vraiment de se montrer. Benjamin, le buzzer de cette première mi-temps retentit et vraiment le buzzer au moment où je parlais de Théo Malédon. Je te remercie d'avoir pris part à ce carton avec moi malgré nos cernes et je sens qu'on va pas faire long feu ce soir. Avant de conclure ce podcast, est-ce que tu aurais un favori pour la course au rookie de l'année ?
Alors personnellement, mon favori pour la course au rookie de l'année, c'est pas un joueur que j'apprécie vraiment, mais c'est un joueur que je pense objectivement capable de le faire. On a un peu parlé en off, mais c'est le 8e choix de la draft au Knicks, Obi Toppin, tout simplement parce qu'il a un avantage physique sur les autres rookies, il a un avantage d'expérience sur la plupart des autres rookies, il a un vrai talent offensif. On sait que la défense, ça vend très peu de rookie de l'année, on sait que c'est l'attaque qui fonctionne, on veut des stats, on veut que la feuille se remplisse, on veut qu'il y ait du 20 points, on veut qu'il y ait des gros cartons. Obi Toppin est capable de faire ça. Il va arriver au Knicks dans une saison où le projet est encore très instable, où il risque d'être responsabilisé parce qu'on compte sur lui sur le long terme. Je pense qu'il a toutes les cartes en main pour devenir rookie de l'année.
Moi, de mon côté, je suis parti du côté de Charlotte avec LaMelo Ball. Je trouve qu'il a l'occasion de vraiment se montrer très rapidement. Il arrive dans une franchise où il va avoir toutes les clés du camion, il va avoir tous les jeux appelés pour lui. Et il est NBA ready, donc il n'a pas un côté où il doit s'adapter, où il doit essayer de se former, de prendre le temps comme peuvent l'avoir certains joueurs. Je pense que, par exemple, Anthony Edwards, lui, il va avoir vraiment cette opportunité directe de montrer qui il est très fort à la passe, il est très fort offensivement, il n'est pas mauvais défensivement également, son seul point faible, c'est la franchise dans laquelle il tombe, et si le bilan n'est vraiment pas bon, peut-être que ça pourrait lui jouer des tours. En tout cas, on va voir très rapidement, hein, on va voir très rapidement l'arrivée de la saison, donc on verra forcément les premiers enseignements dès les premiers matchs. En tout cas, je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'analyste FR pour nous donner votre avis sur les différents prospects de cette draft, ainsi que les sujets, bien sûr, que nous avons abordés ce soir. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour le début de la deuxième mi-temps. Bonne journée à vous. Salut !